et bienvenue sur le podcast Texas Mama Blog Expat. Dans 3, 2, 1, on y va! Je suis super heureuse de vous retrouver parmi nous pour la deuxième saison du podcast Texas Mama Blog Expat. Je tiens d'abord à souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui se joignent à nous. J'en profite pour préciser autant aux anciens qu'aux nouveaux auditeurs que je suis super ouverte aux suggestions de sujets pour le podcast et de ne pas hésiter à me contacter pour me mentionner quelles sont vos idées ou votre intérêt en lien avec le sujet de l'expatriation. Ça va me faire plaisir d'aborder les questions qui vous concernent ou même qui vous tracassent peut-être. J'ai décidé d'organiser la deuxième saison du podcast de manière un petit peu différente, alors que pour la première saison, on mettait l'accent sur les savoureuses aventures des femmes québécoises expatriées un peu partout à travers le monde. Je souhaite cette fois-ci vous offrir aussi des outils, des ressources, des trucs pour vous, les expatriés ou les futurs expatriés. On va donc aborder différents sujets pour vous éclairer sur plusieurs aspects, vous aider à vous préparer à cette grande aventure ou rendre celle-ci exceptionnelle. Je vous demande surtout de partager cet épisode parce que c'est comme ça que le mot va pouvoir se passer puis que les gens vont pouvoir savoir que cette ressource existe. Alors, s'il vous plaît, partagez l'image du podcast sur Instagram en écrivant ce que vous êtes venu chercher dans l'épisode écouté. Ce qui vous a marqué le plus, par exemple. Je vais aussi vous rappeler l'existence du groupe Facebook Québécoise Expat, auquel vous avez accès si c'est ce que vous êtes. Il s'agit d'une magnifique communauté qui partage sur plusieurs sujets à différents niveaux. L'expérience de l'expatriation est vraiment unique, incomparable à une autre. Par contre, la réalité de celle-ci comporte plusieurs similitudes avec celle des autres, puis le fait de pouvoir échanger sur le sujet peut soit nous apporter beaucoup, soit faire en sorte qu'on se sent moins seul. Si vous êtes plutôt une Québécoise qui souhaite vous expatrier, vous pouvez aussi me contacter pour que je puisse vous accompagner dans votre démarche. Ça va me faire plaisir. Pour ce premier épisode, j'aimerais aborder un sujet qui me tient énormément à cœur, vous devez vous en douter, l'expatriation des enfants. En effet, je suis arrivée au Texas avec 3 de mes enfants et la petite dernière est née ici. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur parce qu'en fait, c'est au cœur de l'expatriation qu'on vit, Martin et moi, depuis presque 5 ans maintenant. Et c'est, en fait, s'expatrier avec un ou des enfants. C'est le sujet du jour. Et ça me tient vraiment à cœur parce que je pense que toute l'expérience qu'on vit depuis presque 5 ans tourne autour de ça. Nous, on a toujours vu cette opportunité-là pour nos enfants comme l'expérience d'une vie, comme une chance incroyable pour eux. Et c'est sûr qu'en disant ça, en même temps, il ne faut pas perdre de vue qu'on a toujours la possibilité de rentrer à la maison. Ce qui fait que le fait d'aller vivre à l'extérieur, c'est un beau projet auquel on peut mettre un terme en tout temps. Puis c'est ça qui rend aussi peut-être l'expatriation si magique de notre côté. Je pense que notre façon de voir les choses par rapport à cette expérience-là est vraiment loin de tout ce qui est anxiété ou angoisse ou peur, etc. Puis c'est aussi pas mal la façon qu'on a choisi de présenter tout ça à nos enfants. Donc, ça ne s'est jamais fait dans la préparation à travers un stress incroyable. C'est sûr qu'on a vécu quand même des défis, là, des challenges. Puis, on s'est trouvé dans des situations un peu au pied du mur où on savait plus ou moins quoi faire dans toutes les démarches administratives qu'il peut y avoir à faire, etc. Ou plutôt pas qu'on savait pas quoi faire, mais on était dans l'inconnu. Mais tu sais, à travers ça, on a toujours été confiants qu'on faisait notre move pour les bonnes raisons. Puis, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Nous autres, on n'a jamais vu quand même les choses qui étaient imprévues comme des trucs auxquels on a pensé d'avance. C'est-à-dire que oui, on prévoyait les coûts, etc. Mais en même temps, tu sais, quand on nous disait au début, mais qu'est-ce que tu vas faire si jamais telle affaire, tu sais, si jamais le président des États-Unis, si jamais le visa, si jamais le transfert de fonds pour la maison, si jamais, tu sais, on a toujours eu une attitude assez proche du « je vais voir » rendu à la rivière, comment la traverser. Ça a toujours été notre approche. Puis je pense que ça évite bien des soucis inutiles parce que on s'entend que souvent les situations se règlent par elles-mêmes ou à peu près, puis qu'on se dit après coup, tu sais, j'aurais pas dû m'en faire à ce point-là. Fait que c'est pas mal notre approche. Puis tu sais, c'est sûr aussi que de mon côté, mes parents étaient, comme j'ai déjà dit au podcast numéro 1 de la saison 1, étaient coopérants eux-mêmes. Alors, d'aussi loin que je me souvienne, personnellement, j'ai toujours eu un pied dedans puis un pied dehors. Ça fait que j'ai été expatriée une grande partie de mon enfance, de mon adolescence, de ma vie d'adulte. Alors, c'était pas vraiment... c'est complètement en dehors de ma zone de confort de vivre cette expérience-là, de déménager au Texas. Et donc, je savais probablement plus comment approcher tout ça avec mes enfants. C'est sûr que les miens étaient très jeunes quand on est parti. Quand on a su qu'on allait partir, ils avaient, je sais plus si c'est 3 ou 4 ans et moins. J'en avais 3 à ce moment-là. La 4e est née au Texas. Donc, ça avait son lot de complications peut-être, mais en même temps, c'était vraiment plus facile à mon avis parce que j'avais pas besoin de leur expliquer puis de leur dire exactement tout ce qui allait se présenter à eux. Ils avaient principalement besoin de savoir que leurs parents étaient confiants, leurs parents étaient heureux, leurs parents savaient où est-ce qu'ils allaient, où est-ce qu'ils en allaient, etc. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui était le plus important à l'âge qu'ils avaient à ce moment-là. Là, je veux vous parler d'un concept que personnellement, j'ai découvert seulement dans la dernière année, puis j'aurais tellement aimé ça le connaître avant. Donc, si jamais vous pensez à vous expatrier avec vos enfants ou que vous êtes nouvellement expatrié ou que vous l'êtes depuis un bout de temps ou que c'est vous qui étiez l'enfant et que vous êtes grand maintenant, j'aimerais vraiment ça que vous vous intéressiez au concept du TCK, du Third Culture Kid ou l'enfant de la troisième culture. Il y a un livre de ce nom-là que vous pouvez lire. Puis, grosso modo, là, la définition, je vais la traduire libre par un enfant de la troisième culture, c'est une personne qui a passé une partie importante de ses années de croissance dans une culture qui n'est pas celle de ses parents. Donc, la personne développe des relations avec chacune des cultures. Elle s'identifie dans une certaine mesure avec celle-ci, mais en même temps, elle se considère pas vraiment comme faisant intégralement partie d'une des cultures. Donc, même s'il y a différents éléments de chaque culture qui s'assimilent à son expérience et influencent le système de valeurs et son mode de vie, son sentiment d'appartenance va vers ceux qui ont un vécu semblable à cette personne-là. Donc, ça fait que moi, j'ai découvert dans les dernières années un réseau de Québécoises expats et je vous dirais que je me suis jamais sentie aussi proche des gens que depuis que j'ai fait cette découverte-là. Parce que avant, j'étais ni vraiment à 100% une Québécoise, ni à 100% tunisienne ou italienne ou française ou américaine. J'étais comme un mélange de toutes ces cultures-là. Et tout en les représentant toutes un peu, je ne m'associais pas directement à aucune d'entre elles. Et puis, c'est vraiment en découvrant d'autres personnes comme moi que je me suis associée à un groupe de gens. Ça, c'est une réalité que les enfants connaissent et que même si les parents vont, les adultes vont avoir tendance à dire « Ah oui, moi aussi, je vis ça », ça sera jamais la même chose que quand l'enfant vit ça dans un stade de son développement en tant qu'enfant. Ça, c'est vraiment différent parce que c'est la période de sa vie où il devient quelqu'un. Ça joue énormément sur la personne que ça sera plus tard. Je vais aborder différents sujets aujourd'hui. Puis, c'est sûr que c'est un survol. Je tiens à vous dire que, en fait, c'est un survol d'un livre que je suis en train de compléter au moment où j'enregistre ce podcast-là. Donc, peut-être qu'il sera déjà sur le marché quand le podcast sera en ligne, mais peut-être aussi qu'il ne sera pas. Puis si jamais c'est le cas et que ça vous intéresse de mettre la main dessus quand ça va sortir, bien faites juste m'envoyer un courriel à texasmamablog@gmail.com par rapport à ça, puis je vous tiendrai au courant de la suite pour le livre. Donc, le premier sujet que je vais aborder, c'est la vie de famille et l'environnement familier qu'on quitte quand on part du Québec. Parce que, tu sais, c'est rare qu'on prenne la décision comme un coup de masse. Habituellement, quand on décide de partir, on est content, mais c'est pas toujours le cas de notre entourage. Tu sais, c'est sûr que on a droit à toutes sortes de réactions de la part des gens autour de nous, puis c'est un des trucs à gérer quand on décide de partir. De mon côté, comme je vous l'ai dit, ça a été un peu différent parce que ma famille avait déjà baigné là-dedans, mais pour les gens en général, c'est pas nécessairement le cas, puis ça peut être déjà un défi de l'expatriation. Du côté de mes enfants, ça s'est fait aussi rondement quand même, je dirais, parce que eux, à l'âge qu'ils avaient, ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait, mais je sais que ça peut être plus difficile aussi quand les enfants sont plus vieux, s'ils n'ont pas été ouverts à ces possibilités-là lorsqu'ils étaient très jeunes par une ancienne expatriation. Donc, il peut y avoir de la résistance. C'est souvent lié à l'incompréhension ou aux anxiétés. Puis, c'est vraiment là que la communication va être super importante. Il faut que les gens se parlent, communiquent et finalement crèvent l'abcès sur ce qui se passe dans leur tête. Souvent, quand les gens résistent, c'est un phénomène de ce qui se passe en dedans d'eux par rapport à leur propre peur. Et c'est même pas lié à l'expatriation que vous planifiez. C'est sûr que, sinon, d'un côté, bon, le défi du départ s'est présenté plus tôt dans les années qui ont suivi notre arrivée au Texas par rapport aux enfants parce que le départ, c'était pour nous la fête, arriver ici, découvrir le monde, papa et maman allaient bien, en l'occurrence nous, donc eux aussi, etc. Je dirais que le défi a été plus tôt, puis je vais en parler un petit peu plus tard, quand il a été question des voyages au Québec parce que là, à ce moment-là, là, ils voyaient les grands-parents, la famille, ils recevaient des cadeaux, il y avait des activités. Puis là, souvent, on y va à Noël ou l'été, donc c'est les vacances, les gens ont le temps de faire plein d'activités, on n'est pas dans une routine super serrée, etc. On se couche tard, on ne mange pas nécessairement bien. Alors là, les enfants là, voient les voyages au Québec comme le party, puis ils s'imaginent en vieillissant que le Québec, c'est comme ça. Alors, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on revient ou qu'on revenait au Texas, c'était un peu brutal de revenir dans la réalité, la routine, l'école, les devoirs, etc. Puis là, bien, les enfants commencent à dire que les gens du Québec leur manquent, le Québec leur manque, mais tu sais, au fond, oui, tout ça leur manque, mais tu sais, il y a une grosse partie de ça qui appartient au fait que c'est les vacances, puis tout ce qui vient avec, tu sais. Après ça, ben je dirais que cette bulle de bonheur-là qui existe quand on retourne au Québec, même s'il y a ce désagrément-là dont je viens de parler, en même temps, moi, je pense que c'est super important de créer ces bulles-là. C'est important que les enfants découvrent les gens qu'ils aiment à vitesse grand V, puis qu'ils passent vraiment beaucoup de temps avec eux. C'est peut-être parfait à ce moment-là pour eux, puis c'est peut-être pas exactement comme l'est la réalité, mais en même temps, je trouve qu'il y a un avantage dans cette idéalisation-là de la famille qui est plus grand que le désavantage de pas nécessairement vivre dans la réalité, dans la routine quand on rentre au Québec. Il faut peut-être voir cette situation-là, dans le fond, comme une balance d'avantages et d'inconvénients. Oui, la famille est loin. Non, on ne les voit pas souvent. Ils ne voient pas souvent la neige, etc. Mais ils vivent vraiment des belles expériences. Puis, ben, coudonc, éventuellement, quand on retournera au Québec, ils constateront que c'est pas juste ça la vie. Mais c'est très bien aussi quand même. Ensuite de ça, je voulais vous parler de l'offre qu'on fait à nos enfants quand on s'expatrie avec eux, de la liberté de temps. Ça a l'air drôle à dire, mais tu sais, quand on est dans notre quotidien, que ce soit au Québec ou n'importe où ailleurs dans le monde, quand ça fait longtemps qu'on est dans un environnement, le quotidien finit par prendre le dessus. Tu sais, en dehors du métro-boulot-dodo, on est ancré dans une vie sociale, puis autour de ça, ça fait qu'on a des tournois la fin de semaine, on a un shower, on a un party, on a l'anniversaire de un ou de l'autre, on a le traditionnel barbecue chez Truc Binouche, et etc. Tu sais, puis ça fait qu'on a toujours une routine super serrée. Quand on arrive dans un pays en tant qu'expatrié, puis là, je vous le dis, mais ça ne dure pas tout le temps, nécessairement, mais au début, du moins, on connaît personne ou presque, donc l'horaire nous appartient entièrement. Puis ça, c'est vraiment un grand cadeau quand on arrive dans un endroit parce que, en dehors de la routine métro-boulot-dodo, on arrive à générer un temps fou pour visiter, se promener, apprendre, etc. T'sais, on n'a plus d'obligations sociales pendant un moment. C'est sûr que je vous dirais qu'aujourd'hui, là, après 5 ans au Texas, on a retrouvé une certaine charge sociale, veut pas, à nous 6 plus notre petit pitou. Donc, ça fait qu'on est revenu dans beaucoup d'activités, autant au niveau du sport que des amis, l'école, l'entourage, etc. Mais on en a vraiment profité en arrivant. Je voulais vous parler des avantages et des désavantages aussi de l'enfant, de l'expatriation pour un enfant. Il y a plusieurs avantages, comme évidemment l'ouverture sur le monde. Je pense que je n'ai pas besoin d'aller loin sur cette question-là. La vision 3D qu'ils vont avoir sur le monde. Ils ne sont pas... Ce qui se passe, tu sais, je ne sais pas, la guerre dans un autre pays, pour eux, ce n'est pas complètement étranger. Ils savent ce que ça veut dire être dans un autre pays. C'est à quelques heures d'avion, tout au plus de chez eux. Donc, ils sont très conscientisés. Ils deviennent extrêmement riches de la connaissance d'une autre culture. Ils vont acquérir aussi des connaissances, des compétences, je veux dire, comme profiter du moment présent ou devenir un peu caméléon de certains morceaux de la culture. Ils vont rapidement créer des liens avec les gens parce qu'ils prennent l'habitude de ne pas avoir beaucoup de temps pour créer ces liens-là. Et ils ont souvent une grande tolérance avec vis-à-vis de la diversité puis les différences. Plus tard, on dit que les enfants expatriés deviennent souvent des gens qui pensent « out of the box », qui sont créatifs et qui sont très réceptifs aux différences et aux changements. Je pense que ce qu'on leur offre à nos enfants quand on s'expatrie avec eux, c'est une vision d'ensemble sur le monde, un regard extérieur. Puis, je pense qu'ils apprennent aussi beaucoup le respect et aussi le fait qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves dans le monde que ce qui peut leur arriver personnellement à leur petite personne. T'sais, moi-même, quand j'étais petite, je grandissais dans un pays en voie de développement, je voyais des enfants mourir de faim. Donc, tu sais, quand je me plaignais, je ne sais pas, parce que ils n'avaient pas ma sorte de crème glacée à la crèmerie, ben mon père m'amenait souvent à me comparer au malheur de certaines des enfants que je voyais dans la rue, puis ça me ramenait toujours au fait que je me trouvais chanceuse de vivre la vie que je vivais, puis ça, j'ai encore toujours ce sentiment-là, cette comparaison-là qui arrive. Je pense que ça donne vraiment finalement l'occasion de prendre une distance avec son propre nombril et de regarder les situations avec un regard extérieur. Je pourrais vous parler d'une mise en situation. Par exemple, ma fille s'était chicanée, imaginez-vous donc, avec sa meilleure amie à l'école, puis c'était vraiment sur la conception, la création de l'homme. Elle, son amie qui va à l'école à toutes les semaines, qui se fait parler de Dieu et tout ça, et moi qui ai une approche très scientifique sur la conception, comment on fait un bébé. Les deux filles se sont chicanées, puis en tout cas, ça finit avec toute une histoire. Mais heureusement, la mère de l'amie était ouverte d'esprit, donc on a rencontré les deux filles ensemble, puis on leur a parlé du respect, de l'importance d'être ouvert d'esprit et de comprendre que les autres sont différents. Puis en tout cas, ça a fini que j'ai aussi laissé ma fille aller à l'église avec son amie pour qu'elle voie ce qui se passait dans son environnement. Donc, c'était vraiment pas une question de croyance comme telle, mais tu sais, c'était plus de comprendre que c'était pas le point, c'est pas de savoir qui a raison, tu sais, d'accepter que l'autre pense pas comme nous, c'est très bien aussi. Il y a des défis aussi pour les expats. Puis, tu sais, je vous dirais d'abord que peut-être que les enfants d'expatriés vont apprendre la politique et l'actualité d'une façon peut-être plus détachée. Ils sont jamais complètement chez eux. Ils sont moins patriotes parce qu'ils sont un peu d'ici, un peu de là-bas, etc. Sinon, ils vont certainement grandir en n'apprenant pas à 100% la culture de leur pays passeport, donc de leur propre pays où ils sont nés, où leurs parents sont nés, malgré le fait qu'ils y passent quelques années. Il va y avoir des petites différences selon le temps qu'ils vont avoir passé à l'étranger, évidemment, mais des fois, ça va être difficilement pardonné par les pères quand l'enfant va rentrer au Québec. Tu sais, comment ça se fait que tu ne sais même pas ça, puis tu viens du Québec? Comment ça se fait que tu ne fais même pas ça, puis tu viens du Québec? Ça, ça peut arriver aussi dans le contexte d'une vie d'enfant expatrié. Ils vont se poser beaucoup de questions aussi que les autres enfants vont peut-être pas se poser à leur âge. Tu sais, je suis qui vraiment? D'où je viens vraiment? Comment je fais pour me fondre dans la masse, etc. Tu sais, il va y avoir des préoccupations que les autres enfants de son âge n'auront pas nécessairement. Puis aussi, ben l'idée est pas super simple à expliquer, mais les enfants d'expat développent une capacité d'adaptation vraiment impressionnante. Ça, ça fait qu'à long terme, cette aptitude-là peut être un peu déstabilisante pour les gens qui ne sont pas familiers avec cette caractéristique-là. Tu sais, par exemple, on va observer une personne qui a presque l'air de changer de personnalité selon le groupe de personnes avec qui elle se trouve. Puis là, ben, la personne qui n'est pas un ancien enfant expat, pourrait penser que l'autre n'est pas tout à fait authentique ou vrai, alors que dans le fond, c'est que c'est une super qualité d'adaptation puis de se fondre dans une masse. Donc, ça va être perçu d'une façon vraiment différente. Après ça, bien, c'est ça. Il y a d'autres défis comme peut-être le fait que l'enfant qui va devenir grand va chercher souvent à être mobile, à changer d'environnement. Il va avoir vécu plusieurs deuils. Puis là, tu sais, je ne parle pas de mort, là, mais faire le deuil, quand tu es un enfant, tu ne choisis pas de te faire déplacer d'endroit nécessairement. Donc, il y a des deuils liés à ça, comme celui d'être séparé de ses amis, de sa maison, de sa chambre, de son environnement. Ça va arriver quand vous partez, ça va arriver quand vous repartez pour revenir. Puis tout ça va faire que cette personne-là qui va devenir va être différente aussi. Après ça, je vous dirais que concernant le sujet de vos perceptions à vous en tant que parent, c'est super important de parler de ça parce que je pense qu'on n'en parle jamais assez. Je lis des textes parfois, puis je me dis « Ah, oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? » Tu sais, des textes dans le style « infliger l'expatriation à son enfant ». En tout cas, j'ai entendu des phrases de ce genre-là, « surmonter le stress de… » En tout cas, là, j'ai pas plein d'exemples qui me viennent en tête, là, mais tu sais, des fois, tu entends des affaires, puis tu te dis « Mais voyons, tu sais, c'est pas si… c'est pas négatif, en fait. Donc, je pense que, tu sais, il faut se donner le temps, mais il faut aussi adopter une perception qui va permettre à l'enfant de voir l'expatriation du bon œil et non pas voir ça juste comme quelque chose de hyper négatif. Je pense que les enfants doivent savoir que c'est pas toujours facile l'expatriation, mais que souvent, tu sais, c'est dans ce qui est pas facile, puis c'est dans ce qui nous sort de notre zone de confort qu'on sort le plus grand. Donc, à mon avis, il faut accueillir les difficultés de l'expatriation, puis de les voir comme un défi qui va nous permettre de voler encore plus haut ensuite. Là, on me demande souvent « Comment as-tu annoncé à tes enfants que vous allez vous expatrier? » C'est sûr que, encore une fois, les miens étaient super jeunes et ça, c'est un facteur quand même très déterminant. Mais chez nous, on a toujours parlé de toutes ces questions-là de façon très ouverte. En fait, de toutes les questions, on en parle ouvertement. Donc, on a parlé du fait qu'on aimerait ça, que ça allait peut-être se faire, que ça se faisait, qu'on partait bientôt, qu'on partait, qu'on part, qu'on est parti, qu'on arrive. Puis, tous ces sujets-là ont été abordés continuellement. Les enfants ne se sont jamais posé la question à savoir qu'est-ce qui se passe, puis on n'a jamais organisé rien de formel ou d'officiel. C'est comme si ça allait pratiquement leur faire mal ou changer leur vie ou déplacer complètement leur univers. C'est sûr que à quelque part, c'est ça qui arrive pareil, mais c'est pas non plus, je pense, Excusez-moi. C'est pas non plus, je pense, un point sur lequel, un clou sur lequel il faut taper trop longtemps. Tu sais, je sais qu'il y a des parents qui vont retenir d'informations par rapport à leurs enfants parce qu'ils les trouvent pas assez grands. C'est pas ma façon de faire. Je pense que chaque personne doit décider de la façon qu'il éduque ses enfants, mais moi, je pense que c'est important que, entre guillemets et en bon québécois, mes enfants suivent la POC. Et même s'ils comprennent pas nécessairement l'ampleur de ce qu'on dit, en même temps, tout est une question de perception, puis il faut choisir de voir les choses d'une certaine façon avant d'en parler, puis c'est tout. Quand j'étais enceinte de ma plus vieille, puis c'est un exemple que je ressors souvent parce que je pense que c'est important, je devais aller à la cour à Québec, j'habitais à Montréal, je devais aller à la cour pour mon travail, j'en avais parlé avec mon médecin parce que là, je voulais pas y aller, puis ça me prenait une bonne excuse, donc bref, un papier du médecin qui disait que je pouvais pas faire le voyagement parce que j'étais à moins de 2 semaines d'accoucher, et mon médecin m'a fait réaliser qu'en fait, pourquoi ça se passerait pas bien, tu sais, pourquoi je prévoyais d'avance que quelque chose allait arriver. Et que ça allait être mal. T'sais, pourquoi ça serait pas un grand souvenir que ça allait créer? Pourquoi ça serait pas encore plus partie intégrante de la grande aventure d'avoir mis au monde un enfant? Puis elle avait vraiment changé ma perception à ce moment-là. J'ai pas compris tout de suite, là, sur le coup, je trouvais que c'était vraiment téméraire. Mais avec le temps, j'ai souvent appliqué sa réflexion dans différentes situations dans ma vie où je me suis dit, dans le fond, c'est un choix d'être anxieux et de voir le mauvais côté de tout ce qui pourrait arriver versus s'attendre à ce que les choses se passent bien. Puis au pire, comme je le disais tantôt, rendu à la rivière, tu verras comment la traverser. Un autre sujet que je voulais aborder, c'est le coût de la vie à l'étranger avec des enfants. C'est sûr que Martin et moi, on est partis, je pense, un peu de façon téméraire de ce côté-là. On avait tous les deux un emploi, ça allait quand même bien. On avait acheté une maison au Texas, on vendait celle au Québec. On n'avait pas vraiment de préoccupations à ce niveau-là, mais tu sais, la première chose que tu dois savoir quand tu vas t'expatrier, c'est de quoi tu vas vivre rendu l'autre bord. Tu peux pas partir, en tout cas pas quand tu as une famille avec des enfants, avec un gros point d'interrogation au-dessus de la tête au niveau financier, à mon avis. Donc, c'est sûr que on savait déjà qu'on était à l'aise de ce côté-là, mais on ne s'est pas posé beaucoup de questions non plus. C'était peut-être un peu téméraire, puis je dirais qu'il y a quand même des bonnes différences déjà entre le système au Texas et le système au Québec que j'aurais peut-être dû connaître avant, bien que ça n'aurait pas changé le choix qu'on a fait de venir vivre ici. Tu sais, par exemple, la garderie, ils n'ont pas de garderie à 7 $, donc on est arrivé avec 3 enfants... en garderie à plein prix en arrivant, puis c'était énormément d'argent, là. C'était pratiquement une autre hypothèque. Ensuite de ça, le système de santé, c'est sûr qu'on ne paye pas beaucoup de taxes au Texas, sauf qu'en même temps, bien, le système de santé coûte extrêmement cher selon les soins que tu as besoin, parce que ça peut ne rien coûter si tu as une parfaite santé et que tu ne dois pas aller chez le docteur. Mais à partir du moment où tu as un enfant qui se cogne la tête, tu en as un autre qui attrape une bactérie, tu en as un qui se déchire un bras, tu sais, il peut arriver toutes sortes d'affaires, ma grossesse, etc. Bien là, whoops! L'imprévu fait surface et il faut dealer avec ça. J'irai pas dans le détail, j'y vais plus dans le livre, mais pour pas faire un enregistrement de 3 heures, je vous ramène au livre là, pour avoir plus de détails sur tout ça. Le coût des vacances, c'est différent aussi parce que quand tu es expatrié, tu penses aux vacances à l'extérieur, mais il faut toujours que tu penses aux vacances au Québec aussi. Donc ça peut être un enjeu selon l'endroit où vous êtes dans le monde. Les allocations familiales, c'est extrêmement différent. Aux États-Unis, on n'en reçoit pas. Donc, tu sais, il y a plusieurs questions au niveau financier là, à aborder et à penser avant de décider de partir. Sinon, concernant l'intégration des enfants dans le pays d'accueil, moi, je pense que, puis je survole vraiment, mais je pense que l'intégration, ça ne doit pas venir des autres, ça doit venir de nous, ça doit être un enseignement qu'on fait à nos enfants. C'est un peu comme les allergies de mes enfants, par exemple. Je m'attends pas à ce que les voisins, l'école, les camarades, les amis, les professeurs, les coachs, etc., entourent, encadrent mes enfants pour être certain que mes enfants ne soient pas pris d'une allergie alimentaire. Dans le contexte de leur allergie, je les éduque en étant responsable de celles-ci. On a des, par exemple, noix dans la maison, malgré l'allergie mortelle de ma fille, mais je veux que ma fille, quand elle mange quelque chose, qu'elle se renseigne à savoir s'il y a des noix dans ce qu'elle consomme et qu'elle se soit lavé les mains, etc. Puis, tu sais, ça, c'est super important pour moi de cogner sur ce clou-là aussi parce que je pense qu'il faut vraiment pas attendre que les autres viennent à vous quand vous arrivez dans un pays. Puis là, je vais en parler aussi au niveau de l'ouverture du réseau, etc. Mais c'est super important que vous alliez vers les gens, que vous vous présentiez. En plus, au début, vous êtes chanceux, vous avez l'excuse d'être nouveau. Donc, salut, je suis nouveau, je suis expat, blabla, j'ai un tel endroit. Se présenter, ouvrir un réseau, etc. Puis tu sais, ça va partir de vous. C'est à vous de montrer l'exemple à vos enfants. Puis je pense que c'est comme ça qu'ils vont réussir aussi leur intégration. Il y a différentes autres questions abordées dans le livre, comme l'école à la maison. De ce côté-là, je ne suis pas une adepte moi-même, mais j'aborde un peu le sujet. Et là, je vous amène à l'apprentissage de la langue, qui est un défi quand on déménage dans un pays qui ne parle pas français. Mais je vous dirais que le réel défi, ce n'est pas d'apprendre la langue, et j'en reparlerai plus tard, mais c'est réellement plutôt de conserver le français. Puis là, je sais que c'est difficile à envisager avant de vous expatrier, mais les enfants, c'est comme des éponges. Ils vont rapidement apprendre l'anglais ou une autre langue s'ils sont dans une immersion totale là, à l'école. Ça va prendre là, les liens, là, 3 mois, puis c'était fait, tout le monde était bilingue ici. Là. Même qu'à l'école, on me disait qu'on ne voyait pas la différence entre mes enfants et les Américains dans leur façon de parler. Mes 2 plus vieux qui sont en 3e et 4e année sont les meilleurs en lecture et écriture à l'école en anglais. T'sais, c'est pas ça le défi. Le défi, c'est qu'à tous les jours, il faut les ramener au français. À tous les jours, il faut leur dire de se parler en français à la maison. Il faut ramener ça, puis plus ça va, plus c'est franglais. Ma 3e a de la difficulté avec ça, puis c'est réellement une bataille pour laquelle il y a des solutions quand même. Ça peut être des cours privés en français, ça peut être l'école en français si vous y avez accès, ça peut être la télévision, pardon, la musique en français, les appels avec la famille, etc. Puis c'est super important que vous mettiez des efforts là-dessus parce que sinon, ils peuvent perdre leur langue maternelle. Puis là, ça m'amène à vous parler de la culture aussi. La culture québécoise est aussi, selon moi, quelque chose que vos enfants doivent conserver. Donc, les enfants sont comme des éponges, comme je le disais, puis ils absorbent vraiment vite ce qui se passe autour d'eux. Mais ils vont peut-être se rappeler moins ou avoir moins de références sur leur culture. Puis ça, encore une fois, c'est un effort que nous, on doit mettre pour les amener à conserver cette culture-là. Donc, tout ce qui est aller faire un tour, aller en vacances au Québec, ou si c'est pas possible, tu sais, le parler québécois, les traditions, les habitudes, faire de la nourriture qui vient du Québec. On peut aussi, tu sais, par exemple, rencontrer des Québécois dans notre pays d'accueil. Il y a presque toujours d'autres Québécois dans notre pays d'accueil. Ça ne veut pas dire passer tout son temps et toutes ses fêtes de semaine et ne pas s'intégrer, mais d'offrir cette bulle-là de Québec, de Québécois aux enfants, c'est vraiment un atout pour eux. Après ça, je voulais vous parler aussi de, rapidement, ma grossesse à l'étranger. C'est un autre point qui est assez différent parce que quand on vit une condition médicale particulière, que ce soit une grossesse, une maladie ou autre à l'étranger, il y a quelque chose de quand même assez déstabilisant, bien qu'aux États-Unis, le système est différent, mais qu'on se sent quand même, on est toujours en Amérique du Nord. Il y a quand même une grosse différence, puis c'est au niveau du réseau. Tu sais, l'aide qu'on va avoir, ça peut être assez déstabilisant quand on est hospitalisé, quand on a des enfants, etc. Puis il y a aussi des questions au niveau de la grossesse. Tu sais, quand le médecin me parlait des termes médicaux, c'était pas toujours clair, même si j'avais eu 3 enfants avant. Le processus à l'hôpital était différent. Le processus après l'hôpital, les frais liés à la grossesse, tout ça, ce sont des questions à se poser. Tu sais, je pense aussi que légalement parlant, d'avoir un enfant né à l'étranger, ça peut être assez lourd. Donc, c'est super important de se poser beaucoup de questions avant de décider de concevoir un enfant à l'étranger. C'est sûr que dans un nid d'amour, on se dit que tout va être parfait, mais c'est pas nécessairement toujours le cas. Puis des fois, ben, c'est mieux évidemment de prévenir que de guérir parce que parfois, ça se passe pas comme on l'aurait voulu. Je vous mets en garde aussi, j'ai presque terminé en vous disant que l'expatriation, ça s'attrape. Donc, en vous expatriant avec vos enfants, vous les exposez à une réalité qu'ils vont probablement adorer. Adorer encore plus en s'intégrant, adorer encore plus en vieillissant. Ça va semer une petite graine à l'intérieur d'eux qui risque de ressurgir un jour ou l'autre. Et je suis habituée d'entendre des anciens expatriés parler de leur envie de revivre ce genre d'expérience-là. Ça, c'est en nous, c'est en eux, en nos enfants. Donc, nos enfants n'ont pas vraiment le choix dans toute l'histoire. On ne leur donne pas le choix d'apprendre à faire du vélo non plus. Puis plus ils résistent, plus ils vont nous dire qu'ils n'aiment pas ça, plus ils vont se faire mal, plus ils vont craindre de tomber. Mais au-delà de ça, moi, je pense que nous, le parent, on doit leur montrer à ne pas lâcher, à persévérer, à s'intégrer. Puis, comme on dit, « monkey sees, monkey do », ils vont finir par y arriver. Puis après ça, ils vont avoir le goût de reprendre leur vélo. Je vous mets en garde par rapport au retour, parce que souvent, les expatriés finissent par rentrer à la maison. Puis, je vous dirais que personnellement, ça a été ce que je redoute le plus. Ce que j'ai toujours redouté le plus et ce que je redoute encore le plus des expatriations. Honnêtement, juste d'y penser, là, ça me donne des frissons. Parce que c'est un peu comme mon squelette là, qui se cache dans le placard. Revenir à la maison, c'est un... Tu sais, dans le fond, là, la découverte, c'est un sentiment incroyable de sortir de chez nous, de sortir de notre zone de confort. C'est excitant. Mais le retour aussi, c'est séduisant de revoir la famille, les amis, la neige, on retrouve nos traditions, etc. Mais là, à un moment donné, le temps passe. Puis c'est de ça que je vous parle en ce moment, là. Le same old, le vieux. C'est comme revenir à un ex, tu sais, là, quand on dirait que ça accroche, puis les vieilles affaires sont encore ce qu'elles étaient. Puis, c'est sûr qu'en même temps, on est content de tout un aspect de ça, mais en même temps, il y a quelque chose qui est en nous, il y a quelque chose qui est en nos enfants, qui fait qu'ils vont être forcés à se réorganiser dans un autre univers qui n'est pas celui qu'ils avaient quitté à proprement dit, parce qu'ils ont changé, ils ont grandi, ils ont évolué, mais surtout, contrairement aux adultes, ils se sont développés, en fait, de personnalité. Puis ça, ça fait vraiment une immense différence. Donc, il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce que le retour, ce soit comme ce qu'ils se rappellent de ce que c'était avant. Là-dessus, je pourrais vous laisser quelques petits trucs en vous disant que, tu sais, je pense que c'est important de collecter... une boîte de souvenirs pour votre enfant quand vous êtes expatrié. Donc, de lui donner des outils pour qu'il puisse se sentir un peu comme dans leur ancien environnement. Aussi, on peut réduire l'anxiété. On peut parler d'avance, faire des recherches, leur parler de l'école, de la température, de la langue, des vêtements, des activités qu'on va faire, etc. Et puis, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas vivre dans votre valise. De ne pas vivre l'expatriation comme si ce n'est que la vie était temporaire. Parce que les enfants, ils ont besoin de ne pas avoir une vie en suspens, d'avoir une vie stable qui se continue malgré les grands changements. Alors là-dessus, bien, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, je vous demanderai de partager l'épisode. Peut-être que ça servira à quelqu'un d'autre. Merci! J'espère que vous avez apprécié le sujet et que celui-ci vous a éclairé en lien avec vos propres questionnements. D'ailleurs, si vous avez encore soif sur le sujet et que ça vous intéresse, je vous propose le petit livre que j'ai écrit dans les derniers mois. Donc, si la chose vous intéresse, écrivez-moi à texasmamablog@gmail.com pour me manifester votre intérêt et je vais vous tenir au courant de sa disponibilité imminente.